Vous avez vu un grand spectacle? On en a un plus grand encore.
Luc Lavoie.
Écoute, j'ai tellement ri.
Yasmine Abdel-Fadel.
C'est une pièce d'anthologie.
La rencontre, Lavoie Abdel-Fadel.
On se rappelle en 1995 ce procès de O.J. Simpson qui était accusé du meurtre de sa conjointe et de son ami qui a finalement été acquitté. Ça avait mobilisé toute l'Amérique. Luc Lavoie, O.J. Simpson est décédé aujourd'hui à l'âge de 76 ans d'un cancer de la prostate. Mon Dieu, qu'il a marqué l'imaginaire collectif américain et chez beaucoup de monde hors États-Unis.
D'abord, c'était un athlète incroyable.
Absolument.
Moi, c'était, je suivais le football à l'époque, puis c'était ma vedette, là. Il jouait avec les Bills de Buffalo pour la majeure partie de sa carrière. Et ensuite, il a terminé avec les 49ers de San Francisco. Choisi joueur de l'année. Mais surtout, O.J. Simpson, c'était un homme, un bel homme, un très bel homme, charismatique, sympathique, qui avait une voix particulière. Mm-hmm. C'était quelqu'un qu'on, devant l'écran, on dit en anglais, « The camera loves him ». La caméra adorait O.J. Simpson à cause de cette image qu'il avait.
Télégénique.
Très télégénique et cinématographique, oui. Parce qu'il a fait du cinéma aussi.
Il a animé aussi.
Il a animé, puis il a été un commentateur sportif. Alors, ce gars-là, le 12 juin 1994... on trouve sa femme, Nicole Brown, morte à sa résidence de Los Angeles. Elle est dans une mare de sang aux côtés du corps de son ami, Ronald Goldman. Lui aussi sauvagement assassiné. Et là, dans les jours qui suivent, des accusations sont portées contre O.J. Simpson. Et là, il veut pas se rendre à la police et il part. Et ça, c'est une scène qui est devenue légendaire. Il part sur les autoroutes autour de Los Angeles au volant de son Bronco. Et c'était aussi les débuts de la télévision par hélicoptère avec autant de précision.
Les Américains ont suivi cette chasse
alors,
à l'homme.
T'avais ce Bronco qui avançait, tu voyais du haut de l'hélicoptère. T'avais 5-6 voitures de police derrière. T'en avais 4-5 en avant. Puis l'idée, si on veut pas provoquer une collision où il pourrait y avoir des morts ou des blessés, alors à un moment donné, il a fallu qu'il s'arrête. Mais cette image, pendant une grosse heure et demie, les réseaux de télévision américains avaient ça en direct, c'est l'image du Bronco qui s'en allait. Et pourtant, la veille, je crois, il avait assisté aux funérailles de Nicole Brown et avec ses deux enfants qu'il avait eus avec elle. Le procès s'enclenche et ça devient un carnaval. En fait, ça devient la raison pour laquelle moi j'ai toujours été opposé à la présence des caméras dans les cours de justice.
C'est devenu un cirque,
c'est devenu à la limite vulgaire. Il y a des avocats qui se sont succédés et à un moment donné, il y en avait 4-5. Tous les avocats voulaient être de son bord parce que c'était la grosse affaire. Et puis ultimement, malgré toutes les preuves d'ADN, les tests de sang, la présence du sang dans sa voiture, mais tout
ça. Un gant.
Puis, le gant, puis l'empreinte de sa chaussure.
Oui.
Un gant, mais là, le gant qu'il portait probablement pendant... Parce que ne nous racontons pas d'histoire, là. Il est bel et bien celui qui a tué Nicole Brown.
Il a perdu dans un procès civil.
Il
a dû payer des millions de dollars.
33 millions de dollars, mais il n'a jamais donné une scène parce qu'il n'avait pas les moyens. Il était, dit-on, ruiné. Cet homme qui faisait rêver tout le monde soudainement est devenu le monstre des monstres. Le procès a avorté parce que les policiers de Los Angeles ont commis des erreurs dans la cueillette de preuves, dont celle concernant la chaussure et le gant.
Et le gant, oui.
Il n'y a rien dans le procès qui démontrait qu'il était innocent, mais il y avait tout qui démontrait que la police de Los Angeles n'avait pas agi avec un grand professionnalisme. Finalement, comme tu l'as souligné, la famille de Goldman l'a poursuivi. Ils ont gagné 33 millions de dollars, mais ils n'ont jamais mis la main dessus. Mais ensuite, il a vivoté jusqu'à ce qu'il refasse surface. En 2007, il avait fait des vols dans des chambres d'hôtel à Las Vegas où il allait chercher des mementos, comme on appellerait ça, des souvenirs de grands sportifs. Quelque chose de totalement fou. Mémorabilia, c'est le mot que je cherchais. Voilà, merci. Alors, il a été en prison. Là, depuis 2017, il était en libération conditionnelle. Écoute, il faisait des discours devant, entre autres, une assemblée de gens qui aiment les tueurs en série. Alors, lui, il était l'orateur invité.
Tu vois, mais c'est une personne dérangée, là.
C'était quelqu'un certainement dérangé. T'sais, il y avait, et c'est devenu une histoire noir-blanc.
Ben c'est ça, c'est que c'est devenu... Ça a divisé la société américaine parce que le jury était beaucoup composé d'Afro-Américains, puis on disait beaucoup qu'il a été acquitté parce que le jury n'était pas équilibré. Ça a créé des dissensions puis des divisions au sein de la communauté américaine.
Ah, bien sûr, américaine. Bien sûr. Et son avocat, dont le nom m'échappe...
Il y a eu Kardashian, là, le père de Kim puis Kaylee Kardashian, ça a été l'avocat de O.J. Simpson.
C'était un des avocats.
Ouais. Mais il s'est fait connaître comme ça.
Il y en avait un autre dont le prénom était Robert, puis j'oublie, là. C'était un noir. Et c'est lui qui... À un moment donné, a décidé de faire la preuve qu'un des policiers qui avait été sur les lieux était un raciste et qui avait souvent utilisé le mot en haine. Comme cette expression-là, des mots en haine, oui. Ça vient de ce procès-là. C'est son avocat qui avait sorti
Robert
ça.
Robert Shapiro?
Oui, exactement, Shapiro. Alors, c'est comme la fin d'une saga très américaine, très, très américaine, sur-télévisé. Je veux dire, pendant des mois, il n'y avait que ça à la télévision. C'était incroyable. Et on se faisait prendre au jeu parce que c'était tellement invraisemblable tout ce qui se passait. Le fameux gant. Et là, ils ont dit, devant le jury, essayez de mettre le gant. Bon, le gant était comme dans... Quand ils l'ont retrouvé, il était dans de la pelouse très mouillée.
Il a rapetissé.
Et alors, il a rapetissé. Alors, il essayait de rentrer sa main, puis il faisait pas d'effort, évidemment. Ben non. Mais ça montrait que c'était beaucoup trop serré. Quoi qu'il en soit, il est décédé, 76 ans. Un homme qui avait une vie qu'on croyait exemplaire. Un homme qui avait tout ce charisme, ce talent d'athlète, de communicateur, et qui avait, comme on dit en anglais, un « dark side ».
De héros à zéro.
De héros à zéro. Il va passer à l'histoire comme cette espèce d'échec monumental d'une vie fantastique. Je veux dire, il y avait tout, là. Il était riche. Nicole Brown, c'était une beauté extraordinaire. Ses enfants sont beaux.
Il a viré sur le top.
Il a viré complètement sur le top. La société américaine... En récent encore les contre-coups, je crois.
Luc, je veux t'entendre sur Gabriel Attal, puis le fait qu'il ait réaffirmé la politique traditionnelle depuis plusieurs années déjà, du non-ingérence, non-indifférence. Pourquoi les souverainistes pensaient qu'ils allaient faire autre chose que ça?
Ben, je ne comprends pas, je n'ai pas entendu. Est-ce que c'est le cas? Moi, je n'ai pas entendu ça.
Ben, je ne sais pas.
Ils ont toujours rêvé.
Paul Saint-Pierre Plamondon, Québec solidaire, qui disait que la France doit nous aider puis nous accompagner dans le Québec souverain.
Ah ben oui, mais là, tu sais, ça fait partie des fantasmes des nationalistes québécois depuis toujours, lesquels ont été exacerbés par le passage du général de Gaulle en 67. Et à partir de ce moment-là, le premier ministre Raymond Barre, sous Giscard d'Estaing, qui était assez ouvertement en faveur de l'indépendance du Québec, François Mitterrand, qui en privé, pour y avoir assisté moi-même à ces rencontres-là, malgré le fait qu'il laissait planer toutes sortes de doutes, il trouvait que l'indépendance du Québec, c'était une pure connerie. Alors, il voulait pas se mettre le pied ailleurs que dans les traces des prédécesseurs, et même là, il faisait avec réticence. Alors, j'ai toujours trouvé ça un peu... Tu sais, moi, je suis un peu difficile à humilier, mais ça, je trouve ça humiliant, ce jeu qu'on joue avec un pays comme la France. Qu'on le décide, notre avenir politique, on n'a pas besoin, moi, de savoir ce que...
C'est ça?
Gabriel Attal en pense, là, ça m'intéresse pas vraiment. Et ça fait en sorte que le Québec a des relations économiques beaucoup plus solides. Qu'est-ce qu'on m'a dit dans l'oreille? J'ai mal
en pas grand-chose, mais...
Le Québec fait plus d'affaires et de commerce avec l'Allemagne qu'avec la France.
Avec le Tennessee qu'avec la France.
Ben oui, alors quand tu mets tout ça ensemble, tu dis, mais c'est presque gênant, là. C'est comme si on se promène à genoux devant l'Élysée, puis devant Matignon, puis qu'on dit « Dites-moi que je serais bien si j'étais indépendant. Dites-moi que vous allez m'appuyer. Dites-moi que vous serez là tout au long du parcours. » Moi, j'en ai assez personnellement marre de ça. Et quand j'étais au cabinet du premier ministre Mulroney, qui s'était montré plus ouvert que quiconque d'autre avant lui au fédéral, J'ai fait beaucoup affaire avec les gens de l'Élysée et tout ça.
Ils veulent rien savoir de nos chicanes internes.
Mais non, ils veulent pas entendre.
Hey, ils en ont des mouvements souverainistes en Guadeloupe et en Martinique.
Je m'en souviens,
là,
derrière les portes closes, quand on était seul avec certains des conseillers, dont Jacques Attali, tout ça. Ils sont là, puis... Dis-moi pas que je vais être encore les pieds. On va me barrer les pieds dans ça. C'est gênant. C'est gênant.
Franchement gênant. Luc Lavoie, on va suivre ce discours-là, puis on va probablement l'analyser demain. Bye-bye.
Bye-bye.